Vous écoutez, on lit pour vous.
Ça prend une communauté pour briser l'isolement. Un texte de Maxime Bilodeau, paru à l'automne 2024 dans la revue Virage. De l'autre côté de l'Atlantique, une étonnante entreprise d'économie sociale connaît du succès dans sa lutte contre l'isolement chez les personnes aînées en misant sur l'inclusion et la création de liens intergénérationnel. Ce modèle pourrait-il servir d'inspiration ici, au Québec, l'une des sociétés les plus vieillissantes au monde? Sur la terrasse, une petite foule s'amasse. Françoise, Guy et Catherine écoutent le concert improvisé d'un des leurs, un guitariste amateur au répertoire hétéroclite. « Moi, mes souliers » de Félix Leclerc. « Avani » et « Framboise » de Bobby Lapointe. Les rires fusent. La bonne humeur est contagieuse parmi ces septuagénaires, tous des habitués de « chez Daddy » où de tels moments de convivialité sont la norme. Et pour cause, ce café intergénérationnel, ancré en plein cœur du quartier bohème de La Croix-Rousse à Lyon, la deuxième métropole de la France, a pour mission de créer du lien social. Il s'agit avant tout d'une communauté. Les opérations de l'établissement sont confiées aux adhérents bénévoles, les daddies. Ces derniers mettent la main à la pâte pour préparer le café, mais surtout pour organiser une soixantaine d'activités allant du yoga au tricot en passant par la lecture pour enfants. Car si le programme en journée attire surtout des retraités, il s'adresse aussi par moment aux familles et aux jeunes adultes, notamment quand le café devient une guinguette le jeudi soir. Sur près de 4000 adhérents, la majorité a d'ailleurs moins de 60 ans. Un moment charnière. Chez Daddy a ouvert ses portes en 2020 en pleine pandémie. Comme au Québec, la crise sanitaire a mis en exergue l'isolement dont souffrent les personnes aînées en France. Chez Daddy est né juste au bon moment, alors que s'ouvrait une réflexion collective sur le vieillissement de la population, explique Philippe Albanel, 35 ans, l'initiateur du concept. Pour ce féru d'entrepreneuriat social, il faut agir en amont, afin de briser ce qu'il qualifie de véritable drame du 21e siècle. Les statistiques lui donnent raison. En 2021, un rapport des Petits Frères des Pauvres avançait que 530 000 personnes âgées de 60 ans et plus sont en situation de mort sociale en France. La branche québécoise de ce même organisme estime qu'une personne de plus de 65 ans sur trois souffrira d'isolement en 2030 dans la province, l'une des sociétés les plus vieillissantes au monde. L'Organisation mondiale de la santé rappelle par ailleurs que le manque de liens sociaux se répercute sur tous les aspects de la santé. N'avoir personne pour qui compter au quotidien, c'est peut-être ce qu'il y a de pire. Au Québec aussi. Même s'il n'existe pas encore d'équivalent de chez Daddy, les initiatives intergénérationnelles se multiplient au Québec. Cet engouement se vérifie par une importante augmentation des activités intergénérationnelles offertes dans la province, affirme Fatima Ladjadj, directrice d'Intergénération Québec, qui œuvre pour le rapprochement entre les générations. Sa plateforme en ligne réseautage intergénération en un mot au pluriel québec.org/resotages, qui répertorie plusieurs de ses expériences, donne un aperçu du phénomène. Sport, culture, loisirs. Il y en a pour tous les goûts. L'offre va bien au-delà d'activités simples, comme des jeux de société ou des repas communautaires, précise cependant l'intervenante. L'organisme à but non lucratif récompense d'ailleurs chaque année des initiatives qui se démarquent à l'issue de la Semaine québécoise intergénérationnelle vers la fin mai. En 2024, le prix Coup de cœur a été remis à « Mon histoire en héritage ». Le projet, des adolescents réalisent des entrevues filmées de personnes aînées sur leur récit de vie et leur vision du monde. On sent une réelle volonté de déconstruire les préjugés liés à l'âge. Et ça marche, révèle la trousse à l'intention des milieux d'action intergénérationnelle élaborés par une équipe de chercheurs du Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, en collaboration avec Intergénération Québec. Le document fait état de bénéfices nombreux, appuyés par des données probantes, telles que l'amélioration de l'estime de soi, de la qualité de vie et du bien-être en général chez les personnes aînées. Ce projet de recherche-action fournit en outre des conseils et recommandations pour que les initiatives intergénérationnelles soient couronnées de succès. On y présente, par exemple, une échelle d'engagement intergénérationnel de 7 niveaux, un outil pertinent à utiliser pour amorcer une réflexion critique vis-à-vis une telle démarche. Ça change des vies. Chez Daddy atteint certainement le sommet de cette échelle, celui où les échanges et le soutien sont continus et intégrés dans les mœurs à l'échelle de la communauté. Cela n'en a toutefois pas toujours été ainsi, se souvient Philippe Albanel. Notre jeune équipe a exploré bien des formules avant de trouver la bonne, raconte-t-il. La clé? Simplifier. L'accès aux activités et aux consommations est gratuit en contrepartie de l'implication bénévole et de dons. Des partenariats et subventions complètent le montage financier. L'établissement s'est bien implanté dans la communauté, si bien qu'une deuxième succursale a ouvert ses portes dans un autre quartier lyonnais. D'autres sont à l'étape de la planification, ailleurs dans la région. Françoise, 73 ans, passe plusieurs fois par jour au café pour y piquer un brin de jasette avec d'autres membres de ce qu'elle considère comme sa seconde famille. Les plus jeunes ont à peine quelques mois, tandis que les plus vieux s'approchent de 100 ans. Ici, je suis donc à la fois une grand-mère, une mère et une fille. S'esclave, celle qui a trouvé chez Daddy du réconfort et du soutien lors de la maladie, puis dans la foulée du décès de son mari il y a quelques années à peine. Pour Zoubida, la mi-quarantaine, chez Daddy est en quelque sorte l'extension du logement de ses parents vieillissants dont elle s'occupe et qui habite la résidence pour personnes âgées située au-dessus du café. Ce que j'aime le plus, qu'on puisse aborder n'importe qui, en toute simplicité et bienveillance, confie-t-elle. Chez Daddy, sachez-le, le tutoiement est d'ailleurs obligatoire. C'était « Ça prend une communauté pour briser l'isolement », un texte de Maxime Bilodeau paru à l'automne 2024 dans la revue Virage.
Une priorité toute relative, un texte de Louise Maude Rioux-Soucy, paru le 17 juillet 2024 dans Le Devoir. L'éducation a toujours fait partie des priorités de la coalition Avenir Québec, CAQ. D'abord en Sainte-Trinité avec la santé et l'économie, puis en quintette avec l'ajout de l'environnement et de l'identité. Depuis 2018, le gouvernement Legault a déployé des efforts sincères pour débloquer ou étirer des budgets, documenter les besoins et dépoussiérer les structures en éducation. Si seulement ce gouvernement était un meilleur marathonien, trop d'élèves pâtissent de départs en trombe qui aboutissent à du surplace ou à des abandons. C'est le cas ces jours-ci, alors que le milieu de l'éducation estime s'être fait couper les ailes à deux reprises par Québec depuis le début des vacances scolaires, a constaté notre reporter Zachary Goudreau. Une fois avec la réduction inattendue d'un peu plus de 400 millions de dollars des sommes déjà allouées pour contrer le déficit d'entretien des bâtiments du réseau scolaire, puis une autre avec le refus de reconduire un plan de rattrapage scolaire dont des élèves auraient encore vivement besoin. Doper une réussite scolaire qui affiche une aussi petite mine que la nôtre commanderait pourtant une persistance sans faille de la part du gouvernement. Encore en juin 2024, l'Institut de la statistique confirmait ce que tous redoutaient, soit que la pandémie a bel et bien tiré vers le bas les élèves les plus fragiles, au point de faire bondir le décrochage scolaire au secondaire. La grève des enseignants de l'hiver 2023 a ajouté aux difficultés de plusieurs, au point où le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a imaginé en urgence une solution cousue main avec le milieu. Cette solution a vu les espérances qu'on avait placées en elle fleurir à foison. Un vrai tour de force. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pas moins de 483 751 interventions avaient été recensées lors d'un premier bilan réalisé en avril 2024. Le rythme s'est si bien poursuivi que les enseignants ont pu constater un effet positif à la fois sur la motivation et sur la persévérance des élèves ciblés, deux vertus cardinales indispensables à leur réussite. École comme enseignant note toutefois que le redressement espéré est loin d'être terminé. L'année scolaire reprendra donc à la fin août, avec une foule de voyants jaunes et rouges sur lesquels des profs refusent de fermer les yeux. D'où leurs interventions auprès du ministre Drainville. Joint par Le Devoir, son cabinet a rappelé le caractère exceptionnel de ce plan de rattrapage, qui n'avait jamais été destiné à être reconduit. Il paraît cependant pertinent de rappeler ici qu'à l'annonce de ce même plan, le ministre Drainville avait insisté sur sa volonté de se laisser guider par les besoins des élèves. Il avait dit, pour cela, s'en remettre aux équipes écoles, qui, à son avis, étaient les mieux placés pour évaluer les besoins de nos élèves et imaginer des manières originales d'y répondre. Son seul souhait, qu'il n'y ait pas de proverbial mur à mur. Le ministre a été exaucé. Ont émergé ces derniers mois une foule de projets novateurs à hauteur d'élèves. C'est cet esprit qu'on veut aujourd'hui pérenniser, car il a permis de maintenir des conditions pédagogiques propices à la réussite éducative de tous les élèves, résume le conseil d'établissement de l'école Cardinal Roy dans une lettre au ministre dont Le Devoir a obtenu copie. Réussite. Le mot magique est là. Tout comme il est aussi caché quelque part dans les 409,2 millions retranchés sans avertissement aux établissements, forçant la suspension de travaux de réfection et la mise à pied d'architectes et d'ingénieurs dont les services étaient attendus avec impatience, sinon urgence. Toit qui coule, plafond qui pèle, problème de ventilation, budget destiné à l'élimination de la vermine en explosion, les milieux d'apprentissage ne sont pas tous optimaux au Québec. Ce sont précisément 56 % des immeubles du réseau scolaire qui sont jugés en mauvais ou en très mauvais état. Or, dans l'actuelle politique de la réussite éducative, il est écrit noir sur blanc que la qualité et la performance des services éducatifs reposent aussi sur l'organisation physique des espaces de vie et sur leur accessibilité et leur sécurité. On rêve tout haut dans cette politique de classe dotée d'une bonne luminosité, d'un air sain, d'un confort acoustique, d'une température adéquate et d'un aménagement bien adapté aux besoins. Le hic, c'est que le gouvernement Legault ne coupe pas dans le glaçage en retranchant ses millions. Il coupe dans le budget destiné au maintien et à la réfection d'infrastructures déjà fragiles. Ce haut-là surprend d'autant plus qu'il avait jusqu'ici lancé des signaux contraires en prenant par les cornes le taureau des rénovations que ses prédécesseurs n'avaient pas su brider. Mine de rien, ces deux décisions annoncées dans l'indifférence de l'été font à nouveau douter de la définition qu'a la CAQ du mot « priorité » quand vient le temps de le glisser dans une phrase qui contient aussi le mot « éducation ». C'était « Une priorité toute relative », un texte de Louise Maude Rioux-Soucy paru le 17 juillet 2024 dans Le Devoir.
Quand compartimenter rime avec réutiliser, un texte de Nathaël Morissette, paru le 26 août 2024 dans la presse. Un contenant compartimenté accompagné d'un couvercle en plastique qui permet au traiteur de servir un repas sans que le pain soit écrasé et que la mayonnaise de la salade de macaroni imbibe le sandwich, tout en conservant l'aspect appétissant du morceau de gâteau au chocolat, et ce, sans créer de nouveaux déchets. C'est l'objectif que Retourne-y Coop, entreprise spécialisée dans la réduction d'emballages à usage unique, s'est fixé. Il aura fallu un an de travail et de consultation auprès de différents services de traiteurs pour que la petite équipe composée de 6 personnes mette au monde sa boîte à lunch. Il y a énormément de volumes d'usage unique générés par ce format-là. Sur le marché, on se rendait compte qu'il y avait peu d'options réutilisables, raconte en entrevue Cindy Vaucher, cofondatrice de Retourne-y. L'entreprise a ainsi voulu combler une lacune. L'entreprise. Pour la petite histoire, au moment de sa création en 2021, Retourne-y voulait offrir aux restaurateurs un service de location et de lavage de plats réutilisables, notamment pour les commandes à emporter. La coopérative disposait alors de contenants rectangulaires en acier inoxydable. En 2023, on a pivoté de segments de clientèle pour passer des restaurants aux traiteurs qui fournissent de la nourriture à l'occasion d'événements, explique-t-elle. On s'est rendu compte que les formats de contenants simples que l'on proposait ne répondaient pas à 100% des demandes des traiteurs qui préparent énormément de boîtes à lunch. Le fameux contenant à 3 ou 4 compartiments qui peut accueillir le sandwich, la salade et le dessert. Les traiteurs nous demandaient d'avoir des séparations dans nos contenants, dit-elle. De là est venue l'idée d'ajouter le fameux plat compartimenté en acier inoxydable qui vient avec un couvercle en plastique entièrement conçu au Québec à la gamme d'articles que l'entreprise offre en location. Le produit. Retourne-y loue les contenants aux traiteurs et les récupère après l'événement pour les acheminer à son centre de lavage à Montréal. L'élaboration de la fameuse boîte à lunch ne s'est pas faite en un jour. L'entreprise a ciblé les besoins des traiteurs avant d'y donner naissance. Le but, c'était vraiment de penser à toute la chaîne d'utilisation depuis les cuisines jusqu'au lavage, explique Cindy Vaucher. Le couvercle devait être en hauteur et non plat pour éviter d'écraser le sandwich au jambon, par exemple. Et contrairement à beaucoup de modèles, il n'est pas rattaché au contenant, ce qui facilite la vie des traiteurs. Le contenant avec le couvercle attaché est peu pratique sur les tables de préparation des traiteurs au moment de remplir les plats, car il prend plus d'espace, selon Mme Vaucher, et c'est également pénible au moment du lavage. Une facilité de rangement et une stabilité dans le transport faisait également partie des attributs recherchés. critères auxquels Retourne-y s'est efforcé de répondre. En touche finale, les mots « Je suis réutilisable » discrètement gravés dans le couvercle. L'avenir, la fameuse boîte sera offerte aux traiteurs à partir de l'automne. Mais Retourne-y, en plus de ses services de location et de lavage de contenants, verres et autres ustensiles, ambitionne aussi de vendre ses nouveaux contenants réutilisables. Des discussions sont en cours avec des gens dans le domaine de la restauration ainsi que dans les milieux hospitaliers et scolaires. La coopérative offre également des services de consultation pour les entreprises qui veulent faire la transition des contenants à usage unique vers les contenants réutilisables. On a construit cette expertise-là, affirme Cindy Vaucher. On accompagne nos clients. On n'est pas juste des vendeurs de contenants. Et pour preuve, depuis sa fondation, l'entreprise a évité la création de 102 000 articles jetables. C'était « Quand compartimenter rime avec réutiliser », un texte de Nathaël Morissette, paru le 26 août 2024 dans la presse.
Ce qu'il faut savoir sur le virus de la Mpox. Un texte de Lise Denis, paru le 19 août 2024 dans Le Devoir. Face à la résurgence des cas de Mpox en Afrique, l'Organisation mondiale de la santé a déclenché la semaine dernière son plus haut degré d'alerte au niveau international. Pour l'instant, la souche du virus la plus sévère épargne les autres continents. Mais à l'échelle planétaire, les maladies peuvent se propager rapidement. Le Devoir s'est entretenu avec la directrice médicale du Laboratoire de santé publique du Québec, la docteure Judith Fafard, pour faire un état des lieux. Quels sont les symptômes? Le virus responsable de la Mpox, aussi appelé variole simienne, provoque une éruption cutanée qui débute en général près des organes génitaux et près de la bouche, puis qui se généralise. Ça commence par des bosses sur la peau qu'on appelle des papules, qui vont se transformer en vésicules, donc des bosses qui se mettent à avoir du liquide dedans, explique la docteure Judith Fafard. Puis, ce liquide devient trouble et forme des pustules légèrement renfoncées au milieu. Les personnes atteintes du virus peuvent également avoir mal à la tête, de la fièvre, des ganglions enflés ou se sentir faibles. Le virus circule-t-il au Québec? En date du 12 août, 164 cas de Mpox avaient été signalés au Canada depuis le début de l'année 2024. Les éclosions se sont plutôt concentrés en Ontario et en Colombie-Britannique, indique la docteure Fafard. Depuis janvier 2024, 10 cas ont été détectés au Québec. Jusqu'à présent, aucun cas de clade 1B n'a été détecté au Canada. Seul un voyageur atteint de la Mpox de clade 1B a été détecté en dehors du continent africain, en Suède. C'est cette nouvelle souche du virus qui est la plus sévère. À titre d'exemple, le clade 2B, qui circulait dans les pays industrialisés en 2022, présentait un taux de mortalité inférieur à 0,1%, indique la docteure Fafard. Le clade 1B, qui circule actuellement en Afrique, a un taux de mortalité aux alentours de 4%, voire de 11% chez les enfants. Ce taux pourrait toutefois changer dans les pays industrialisés, précise l'experte, puisque l'accès aux soins n'est pas le même. C'est fort possible que le virus sorte des pays africains, ajoute Judith Fafard, soulignant que les dernières années nous ont montré que les maladies tropicales pouvaient voyager rapidement. Par contre, tout le monde est en alerte, et même si on a affaire à un clade différent, possiblement plus sévère, les mêmes mesures de prévention et la même prise en charge sont applicables. il y a 2 ans. Montréal a été l'épicentre d'une épidémie de Mpox durant laquelle environ 527 cas ont été déclarés dans la province. Mais la docteure Fafard estime que le Québec est désormais mieux outillé pour faire face à une potentielle propagation du virus. On surveille la situation de près. Nos cliniciens sont très bien outillés pour reconnaître la maladie, dit-elle, ajoutant qu'environ 40 000 doses de vaccins ont été administrées au Québec depuis l'été 2022, particulièrement dans la communauté LGBTQ+. Comment se transmet-il? Les personnes déclarées positives au virus, causant la Mpox, sont contagieuses tant que les croûtes formées au-dessus des lésions ne sont pas tombées. Contrairement à la COVID-19, le virus ne se transmet pas par voie aérienne, même s'il peut circuler via des gouttelettes hors de contact rapproché. La Mpox se propage plutôt par contact peau à peau, de la durée d'un câlin, explique la directrice médicale du Laboratoire de santé publique du Québec. Une contamination à partir d'un objet serait étonnante, ajoute l'experte. On a l'évolution de cette épidémie bien à l'œil pour être capable de s'adapter, mais à l'heure où on se parle, on n'est pas du tout dans le même paradigme que la COVID, rassure la docteure Fafard. Il n'y a pas lieu pour monsieur et madame tout le monde d'avoir peur d'aller dans des endroits publics. Qui sont les personnes les plus à risque? Actuellement, au Canada, le clade 2B circule principalement au sein de la communauté LGBTQ+. C'est donc cette population qui est invitée à recevoir 2 doses du vaccin à 28 jours d'intervalle pour se protéger. Si une personne a été vaccinée une seule fois en 2022, il demeure pertinent pour elle d'aller chercher une seconde dose 2 ans après, précise Judith Fafard. Cependant, la dose de rappel n'est, pour l'instant, pas recommandée par le Comité de l'immunisation du Québec. Ceux qui ont reçu 2 doses depuis 2022 sont encore immunisés. Toutefois, n'importe qui peut contracter et transmettre le virus causant la Mpox, souligne la docteure Fafard. L'orientation sexuelle ne nous rend pas plus ou moins susceptibles d'attraper un virus. En Afrique, le clade 1B touche la population hétérosexuelle, les femmes et les enfants, indique-t-elle. Si cette souche du virus arrivait au Canada, les réseaux de transmission pourraient être différents. Si c'est le cas, les messages de prévention sont adaptés en conséquence. C'était Ce qu'il faut savoir sur le virus de la Mpox, un texte de Lise Denis paru le 19 août 2024 dans Le Devoir.